Je vous invite à trouver le cinquième chapitre de Matthieu. Nous relirons les béatitudes que nous avons lues dimanche passé. Voyons la foule. Nous dit Matthieu, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car ainsi, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Nous avons vu la semaine passée que ces béatitudes sont une description du vrai chrétien, et qui commence donc avec « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Car le vrai salut est à eux, parce que ceux-là sont des gens sauvés. Et nous avons vu que ces béatitudes sont aussi une description du caractère chrétien. Que le vrai chrétien a toutes ses qualités, pas l'une ou l'autre, mais toutes. Pas parfaitement, mais réellement. Et nous avons vu que ces béatitudes sont aussi vraiment une annonce de l'Évangile, de la bonne nouvelle, de ce que Dieu fait, car ils seront consolés, ils seront rassasiés. Le royaume des cieux est à eux. Ils obtiendront miséricorde. Et nous voyons plein de promesses dans ces béatitudes envers ce peuple à part qui est décrit par ses caractéristiques. Et nous arrivons donc aujourd'hui à la deuxième béatitude. Si vous n'avez pas entendu l'enseignement au sujet du premier, je vous exhorte vivement à le faire parce que vraiment on ne peut pas comprendre le reste sans comprendre le début. Mais dans ma Bible, la deuxième, j'ai dit dans ma Bible parce que l'ordre est inversé dans certaines versions, mais dans la version que j'ai, la deuxième est « Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés ». Dans certaines versions, vous aurez « Heureux ceux qui sont doux », le troisième, en place de la deuxième. Mais nous allons suivre la version de la colombe. Donc, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Ou d'autres versions disent « Heureux ceux qui mènent deuil », parce que le mot « Heureux ceux qui se lamentent », le mot est employé pour décrire des personnes qui font des obsèques. Donc, c'est une profonde tristesse que Jésus décrit ici. Heureux ceux qui sont profondément tristes. Heureux ceux qui se lamentent, car ils seront consolés. La première chose que nous voulons faire, comme la fois passée, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Nous avons vu la dernière fois, et je le redis, que Jésus nous présente ici et veut que nous gardions dans notre cœur un inversement radical des valeurs. Vous savez que c'est exactement le contraire de tout ce que le monde recherche, de se lamenter. On pourrait presque décrire toute l'orientation des gens non-croyants en disant que, ils cherchent à tout prix à éviter la tristesse. Ils veulent mettre un visage heureux et optimiste sur tout. Et avoir une espérance que même si les choses sont mauvaises, ça va aller mieux. Avec la science, on va trouver un moyen de vivre plus longtemps et moins malade et plus heureux par différentes solutions politiques ou avec un peu de ceci, avec un peu de cela, ça va aller mieux. Mais Jésus dit que notre manière de vivre doit être exactement le contraire. Au lieu de fuir ce qui est là dans ce monde, qui est cause pour lamentation et tristesse, nous faisons face à la réalité et nous vivons dans cette constante lamentation. Cette tristesse qui nous fait ressembler à celui qui était l'homme de douleur habitué à la tristesse. C'est vraiment très étonnant, n'est-ce pas, que Jésus puisse dire heureux ceux qui sont tristes. Il est en train de nous donner un paradoxe divin, quelque chose qui n'est pas naturel. C'est vraiment quelque chose de tellement différent que ça ne peut pas exister à moins que vous soyez vraiment né de nouveau et converti. C'est presque une preuve de la véracité du christianisme, qu'il peut y avoir des gens dans ce monde qui sont heureux parce qu'ils se lamentent, parce que c'est une impossibilité. Donc, d'abord, ce que cela ne veut pas dire. Quand Jésus dit heureux ceux qui se lamentent, il ne parle pas d'une tristesse, d'un chagrin de tempérament. Vous savez qu'il y a des gens qui, de par leur tempérament, sont tristes, sont mélancoliques. Et Jésus ne parle pas du tout de cela. En fait, la Bible veut que nous repoussions toute tristesse qui n'est que le fait d'un tempérament. Jésus ne parle pas non plus quand il dit heureux ceux qui se lamentent ou qui sont affligés ou qui mènent deuil. Il ne parle pas d'un négativisme. Il ne vous recommande pas d'être cynique ou pessimiste au sujet de la vie. Au contraire, le verset dit heureux, n'est-ce pas, dans le premier mot. Il ne parle pas de caractère de personne sans joie. Jésus ne dit pas heureux ceux qui ne font que se lamenter. Il dit heureux ceux qui se lamentent. Mais votre caractère de chrétien ne doit pas se limiter et s'arrêter à la lamentation parce qu'ils seront consolés. D'accord? Donc le vrai caractère du chrétien mélange votre orientation vers ce vie ici-bas à ce mélange de tristesse, de lamentation et de réconfort profond. D'accord? Donc qu'est-ce que cela veut dire? Premièrement, quand Jésus dit heureux ceux qui se lamentent, il est en train de dire que le vrai chrétien est triste au sujet de ses péchés. Et il ne cesse, vous ne cessez jamais, un seul jour de votre vie, d'être triste au sujet de vos péchés. Joël nous a lu ce passage dans le livre dans l'épître de Jacques, qui est très étonnant. C'est dans le contexte d'un problème de péché parmi ces chrétiens, mais le verset contient ce commandement de la part de Dieu. Il dit ceci: reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse, humiliez devant vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Même si on ne reste pas dans cette humiliation, ce deuil, on doit y passer, n'est-ce pas, pour connaître cette élévation du réconfort. Donc pour moi et pour vous, vous allez vous cesser d'être des gens tristes quand vous allez cesser de pécher contre votre Dieu. Et ce n'est pas pour maintenant. Donc, dans la musique de ta vie chrétienne, il y aura toujours une note en mineur, une note de tristesse, qui ne va jamais vous plonger dans le pessimisme ou dans le désespoir, parce que justement, parce que vous êtes affligé, vous recevez constamment le réconfort du Seigneur. Votre carence est l'endroit de la plénitude du Seigneur Jésus-Christ. C'est justement là où vous êtes vide, où le Seigneur vous remplit. C'est justement parce que vous êtes triste au sujet de votre péché, comme la femme prostituée dans le Nouveau Testament, qui pleure devant Jésus, qui lame ce marin, c'est parce qu'elle pleure sur ses péchés que Jésus lui dit: va en paix. Ta foi t'a sauvé. Et pour toi, il en sera ainsi. Au milieu de nos pleurs, c'est là que nous recevons ce réconfort merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, heureux ceux qui se lamentent, ça veut dire que nous vivons constamment avec une note de tristesse au sujet de nos péchés. Notre manque d'amour pour le Seigneur, notre manque de fidélité, nos immoralités, nos incohérences. Deuxièmement, ceux qui se lamentent sont ceux qui sont tristes au sujet du péché de la société en général. Jésus n'avait pas de péché, mais il se lamentait. Il était triste. Nous le voyons pleurer au tombeau de Lazare. Voyons la misère que crée le péché, la mort venue dans la race humaine. Nous le voyons pleurer sur la ville de Jérusalem, sangloter devant ses disciples, en disant: oh, si vous saviez, parlons à Jérusalem, quel était le temps de votre visitation. Combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Et Jésus est triste au sujet du péché des autres. Nous voyons dans les prières des hommes de Dieu de toutes les générations que quand on est vrai croyant, le péché, non seulement en moi, mais le péché ailleurs, nous attriste. Nous ne pouvons pas voir le mal dans les autres sans nous sentir quelque part concernés. Et quand je vois les nouvelles lois qui sont passées en France et ailleurs, qui légalisent le péché, qui prônent l'immoralité, je ne peux que me lamenter et pleurer sur cette société. Nous voyons cela, par exemple, dans la prière de Daniel. Écoutez ceci, à un moment donné, Daniel dit ceci: je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Ah, Seigneur Dieu, grand et redoutable, est-ce que vous avez jamais prié comme ceci? Toi qui gardes alliance et ta bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Il parle de lui et pas seulement de lui, mais tout le peuple. Nous avons commis des fautes. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos princes, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice et à nous, la honte en ce jour. Aux hommes de Juda, aux hommes, aux habitants de Jérusalem, à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tout le pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Éternel, à nous, la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Donc, le chrétien ne peut pas regarder le monde autour de lui sans avoir de la tristesse. Et combien cela est vrai aujourd'hui. Combien le chrétien doit être aujourd'hui quelqu'un qui se lamente. Il n'y a aucun espoir pour la France ou pour l'Occident s'il n'y a pas un peuple au nom du Christ qui se lamente et qui porte sur le front un sceau, une étiquette de lamentation et de tristesse. Donc, heureux ceux qui se lamentent, c'est au sujet de nos péchés à nous, au sujet de la péché, des péchés de la société en général. Mais Jésus parle aussi de ceux qui se lamentent au sujet de la misère de cette vie dans un monde déchu. C'est-à-dire pas seulement les péchés, mais aussi les conséquences. Nous voyons cela, par exemple, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Lorsque nous lisons dans le verset 23 ceci, bien plus nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes ou nous gémissons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ou bien nous le voyons aussi dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 2, où nous lisons ceci. Aussi, nous gémissons dans cette tente, dans ce corps physique, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. Donc, il y a un sens dans lequel nous pleurons, nous nous lamentons, nous sommes attristés, simplement parce que l'état, la situation, l'existence ici-bas est une existence en carence profonde. On pourrait dire comme ceci, je vis, vous pouvez le dire hein, si vous êtes chrétien, je vis dans un monde où je ne peux pas être à l'aise, où rien ne peut m'amener à un réconfort permanent. Je vis, ma situation, l'état des choses est tel qu'ici, je ne peux pas être complètement chez moi. Complètement satisfait. C'est pour cela, dans la version des Béatitudes en Luc, chapitre 6, verset 24, nous avons cette affirmation intéressante du Seigneur. Il dit, mais malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation. Vous avez compris? Il y a des gens pour qui, ici, c'est déjà le lieu du bien. C'est déjà le lieu du réconfort. On est bien. Pourquoi changer? Cette vie ici, ça me suffit. Mais le chrétien ne peut jamais être comme ça. Je n'ai pas ma consolation. Vous n'avez pas la vôtre. Nous voyons un peu la même chose dans le psaume 17. Où nous lisons ceci. Je trouve que ce verset est peut-être un des meilleurs commentaires sur cette béatitude. À la fin de ce psaume, nous lisons Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, fais-le plier par du méchant, délivre-moi du méchant par ton épée, des âmes par ta main, Éternel, des âmes de ce monde, leur part est dans cette vie. Tu leur remplis le ventre de ce que tu as mis en réserve. Leurs fils sont rassasiés. et ils laissent leur superflu à leurs jeunes enfants. Mais pour moi, avec justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Donc nous voyons deux sortes de personnes. Une sorte de personne qui a son superflu, son bien ici. Et l'autre personne qui dit, pour moi, c'est lorsque je vais ressusciter. C'est dans un autre monde que tu vas me rassasier. Mais ici, jamais. Et dernièrement, ceux qui se lamentent au sujet de leurs péchés, les péchés des autres, l'état de carence, de misère de ce monde, et aussi on se lamente au sujet de l'état spécifique de l'Église. Parce que ici-bas, dans cette vie, en tant que le vrai peuple de Dieu, nous sommes opprimés, nous sommes rejetés, et nous sommes en guerre. Et cela rend cette vie une vie inconfortable pour nous. Quand je pense à cette petite église que nous avons essayé pendant des mois et des mois de toucher, d'annoncer, de publier le fait qu'il y a une église chrétienne ici qui adore le Seigneur Jésus-Christ et que vous voyez la réponse, vous voyez combien ça veut rien dire pour les gens autour de nous, des dizaines de milliers de gens autour de nous. Et on n'arrive pas à remplir pratiquement un seul rang des chaises ici. Et pour nous, en tant qu'Église chrétienne, cette vie est une vie de tristesse aussi en ce sens. Dans le prophète Isaïe, nous voyons ce fait que le réconfort est lié à cet état de guerre. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute. Oui, ma lamentation est au sujet de ma faute, mais aussi au sujet de ma guerre. Je suis dans une guerre ici. Et ça va parfois difficilement. Donc, je crois qu'avec tout cela, vous voyez le sens de cette phrase, heureux ceux qui se lamentent au sujet de leurs péchés, les péchés des autres, la misère de ce monde et la misère de l'Église. Deuxième point, et nous avons fait l'essentiel du message de ce matin, mais quelle est l'importance d'être quelqu'un qui se lamente devant Dieu? Trois choses. En étant quelqu'un qui est triste au sujet de vos péchés, de l'état déchu de ce monde, tu entres en harmonie avec Dieu lui-même qui voit les choses ainsi. Vous ne pouvez pas être en harmonie avec Dieu, vous ne pouvez pas marcher étroitement avec quelqu'un à moins d'être en harmonie avec lui. Et vous ne pouvez pas être en harmonie avec Dieu à moins de vous lamenter sur vos péchés et sur ce monde. Nous entrons vraiment en sympathie avec Dieu par ce moyen. Je vous lis Ézéchiel 9 et le verset 4. L'Éternel lui dit à Ézéchiel, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. Vous voyez ça? Dieu dit, je veux que tu marques au front tout ce qui se lamente parce que moi je me lamente, parce que je suis d'accord, parce que ces gens s'identifient comme étant mes enfants qui ont la même attitude que moi. C'est extrêmement important. Ceux qui passent leur vie chrétienne, soi-disant, hein, dans une joie superficielle, et tout le monde, toujours dans la célébration, ne comprennent pas quelque chose de cette vie dans le royaume des cieux. Donc, deuxièmement, se lamenter, c'est important parce que là où il y a lamentation spirituelle, là, il y a pardon et consolation divine. Nous l'avons vu déjà dans la lecture de Joël, que Joël nous a fait de Jacques, que donc il nous commande de nous lamenter, de mener deuil, humiliez-vous et Dieu vous élèvera. Et dans la béatitude elle-même, heureux ceux qui se lamentent, car ils seront consolés. La consolation de Dieu, le réconfort, la parole de l'assurance du pardon vient vers ceux qui se lamentent. Je vais juste vous lire un verset à ce propos dans 2 Chroniques, chapitre 34. Et donc c'est le verset 27. Parce que, donc c'est la parole de l'Éternel à, je crois, à Josias, roi de Juda, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, oracle de l'Éternel, je te recueillerai auprès de tes pères, ainsi de suite. Nous voyons donc que un des vieux puritains anglais a dit lamentez-vous sur vos péchés et réjouissez-vous au sujet de votre lamentation. Et si dans notre vie chrétienne, nous ne prenons jamais le temps de pleurer sur ce qui ne va pas, le Seigneur ne viendra pas vers nous avec la consolation divine. Et là, il y a souvent un grand problème. Les chrétiens qui cherchent à ne jamais penser à leur culpabilité, qui ne cherchent jamais à voir ce qui ne va pas, qui ne cherchent jamais à faire face à ce qui rend triste. Et ils demandent pourquoi ils n'arrivent pas à être joyeux. Ils essaient d'éviter la tristesse. Mais le moyen d'arriver à la joie, c'est de faire face à la tristesse de nos péchés et du monde. Troisièmement, c'est important de se lamenter. Parce que ça nous détourne de ce monde comme le lieu de notre espérance, et ça nous pousse à regarder vers Dieu seul et vers la venue du royaume de Dieu, donc le retour de Christ comme notre seul réconfort suprême. Ça, c'est un grand problème, n'est-ce pas? Nous sommes trop terrestres. Nous sommes trop, même en tant que chrétiens, attachés à ce monde, cette vie, même si c'est la vie chrétienne. Nous pensons que c'est ici que nous trouverons ce qui est important, ce qui va nous rendre satisfaits. Mais Jésus est en train de nous dire aussi qu'il doit y avoir une insatisfaction, une lamentation qui nous pousse à être à l'attente, à être vraiment des gens qui disent pas ici-bas. Ce n'est pas ici que j'aurai le réconfort final et définitif. Oui, nous sommes consolés déjà, ça commence cette consolation ici-bas. Le Seigneur nous parle, il nous pardonne, il nous donne de l'assurance, il nous réjouit énormément. Mais ce réconfort, c'est les prémices, c'est l'échantillon de ce qui va venir plus tard et ce qui est définitif et parfait. Un mot au sujet de d'où vient la lamentation avant de finir par une conclusion. Vous pouvez vous demander, mais je suis chrétien, c'est vrai, je me lamente, mais pour ces raisons-là, mais j'ai besoin de grandir dans cela. Sachez tout simplement que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez fabriquer en vous-même. Cette lamentation vraiment spirituelle au sujet de vos péchés, le péché du monde, cette misère, ça vient du fait de voir les choses comme elles sont, de vous voir tel que vous êtes dans le miroir de la loi de Dieu, et aussi de voir la grâce de Dieu, le pardon. Quand on voit les deux choses ensemble, on se lamente et on se fait raccord. C'est lorsque nous voyons ce que nous avons causé au Seigneur en célébrant la scène et que nous voyons en même temps combien il a été plein de grâce envers nous, que nos cœurs sont tristes de la bonne manière et réconfortés de la bonne manière. Donc nous avons besoin pour grandir dans tout cela simplement de grandir dans notre capacité de nous voir tels que nous sommes. Et de voir la bonté extrême de Dieu envers ceux qui ont des raisons pour se lamenter. Cette bonté et cette grâce extrême du Dieu qui voit son enfant qui pleure sur ses péchés et qui dit que la paix te soit donnée. Voilà. Ok, conclusion, application. D'abord, est-ce que vous êtes quelqu'un qui se lamente comme une orientation fondamentale de ta vie au sujet de vos péchés, le péché du monde et tout ce dont nous avons parlé? C'est une raison pour s'examiner si vous êtes vraiment chrétien ou pas. Deuxièmement, si vous êtes chrétien, est-ce que vous vous lamentez ou est-ce que vous vous plaignez? Alors, là, il y a une grande différence, n'est-ce pas? Si vous voyez tout ce qui ne va pas et vous ne voyez pas la grâce de Dieu envers le pécheur, n'est-ce pas, le réconfort, la consolation qui vient, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement voir tout le mal en vous, en dehors de vous, et vous allez vous plaigner constamment. Ah, oh, ça va pas, ça va pas. Ni au-dedans, ni au-dehors. N'est-ce pas? Et Dieu ne veut pas que nous soyons ainsi. Heureux! Heureux ceux qui se lamentent, car de la part du Christ Sauveur, ils seront consolés. Ensuite, un autre mode d'application, c'est quelle sorte de caractère chez le chrétien ou chez l'Église attire le monde? Aujourd'hui, dans bien des milieux évangéliques, on dirait, il faut être tout le temps heureux. Et il faut dire à tout le monde que nous, les chrétiens, nous avons trouvé la vraie joie. Avoir toujours un grand sourire. Et c'est ça qui va attirer des gens. Ça vient plus du monde de marketing que de l'évangile. Oui, nous avons une vraie joie profonde. Et cette joie étonne le monde et l'attire. Mais cette joie n'est pas une joie sans mélange. Cette joie est une joie qui est jointe, c'est ça qui le rend différent du marketing. Cette joie est une joie qui est jointe à une gravité de caractère, une sobriété, un réalisme, une humilité. Quelqu'un qui fait face à lui-même et au monde et qui peut connaître la joie au milieu de la tristesse. C'est ce caractère-là que les gens n'ont jamais vu. Non, jamais vu. Cela me mène à mon dernier mot qui est aussi une application pour l'Église. Quelle sorte de culte devons-nous célébrer? Aussi, dans les milieux évangéliques, parfois aujourd'hui, on a l'impression que le culte, l'adoration chrétienne est uniquement célébration. C'est ce mot qui revient encore et encore. Célébration, célébration. Et je trouve que les chants d'humiliation ou de lamentation ont presque disparu de notre recueil. Autrefois, dans les autres générations, il y avait des chants de lamentation. Là, on en a chanté aujourd'hui, n'est-ce pas? Des chants d'aspiration avec un ton un peu se lamentant. n'est-ce pas, sur nos péchés. Nous allons en chanter là tout à l'heure aussi. Mais nous ne devons pas avoir peur de nous lamenter dans le culte. Nous devons. Il y a des psaumes de lamentation. Et il y a même dans les psaumes qui ne sont pas des psaumes de lamentation, des passages de lamentation. C'est difficile de trouver un psaume où il n'y a pas une part de lamentation. Qu'est-ce qui nous est arrivé dans nos recueils? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas en phase avec la manière de vivre et de chanter du peuple de Dieu d'autrefois? C'est vrai que la note de joie est toujours prédominante parce que la consolation du Seigneur remporte sur la tristesse du péché. Mais pour que cette note de joie soit tout ce qu'elle est, il faut aussi la note de tristesse. Que le Seigneur nous aide donc à apprendre à nous lamenter et à être profondément consolés par le Sauveur. Nous allons chanter le numéro 269.